écoutez KTO Radio, il est 20h. Tout de suite, l'Angélus à Saint-Pierre de Rome.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Chers frères et sœurs, bonjour.
Abbiamo da poco concluso la celebrazione eucaristica.
Abbiamo terminé la célébration eucharistique du jubilé du sport.
E ora con gioia rivolgo il mio saluto a tutti voi.
Je salue vous tous, sportifs de tous âges et de toute provenance.
Je vous exhorte
à vivre l'activité sportive,
même
au niveau, dans les sphères athées, toujours avec un esprit dans le sens noble du sport, parce que c'est dans le jeu, dans le divertissement sain, que la personne humaine ressemble à son créateur.
Mi preme poi sottolineare che lo sport
Je vous souligne que le sport est un chemin pour construire la paix. C'est une école de respect et de loyauté qui fait grandir la culture de la rencontre et de la fraternité. Frères et sœurs, je vous encourage à pratiquer ce style de sport et de bannir toutes sortes de violence et de passion. Le monde d'aujourd'hui en a tellement besoin. Il y a en effet tant de conflits armés au Myanmar. Même s'il y a eu un cessez-le-feu, les guerres continuent avec des dommages aux infrastructures civiles également. J'invite toutes les parties prenantes à engager des chemins de dialogue pour construire une paix stable et durable. Dans la nuit entre le 13 et le 14 juin, dans la ville de Yelewata, à Gouma, dans l'état de Benue, au Nigeria,
si è verificato un terribile massacro in cui circa 200 persone sono state uccise.
Dans lequel à peu près 200 personnes ont été massacrées avec une cruauté extrême. La maggiorité desquelles étaient des déplacés internes, hébergés par la mission de charité catholique locale, priant pour que la paix et la justice prévalent au Nigeria.
È così colpito da varie forme di violenza.
Qui est tant touché par différentes formes de violence. Priant également pour les communautés chrétiennes rurales de l'État de Benue,
sono stati vittime della violenza.
Qui ont été constamment victimes de violence.
Penso anche alla Repubblica del Sudan.
Je pense aussi à la République du Soudan,
dévastata dalla violenza.
Dévastée par la violence.
Mi è giunta la triste notizia della morte del reverendo Luke Jumu.
La triste nouvelle vient de m'arriver de la mort de Luke.
Vittima di un bombardamento. Mentre assicuro le mie
C'était le curé de cette paroisse, victime de bombardement. Priant pour lui, pour toutes les autres victimes, et renouvelons l'appel aux combattants afin qu'ils arrêtent ces violences, qu'ils protègent les civils et qu'ils reprennent le dialogue pour la paix. J'exhorte la communauté internationale à intensifier les efforts pour fournir au moins l'assistance essentielle aux populations touchées. Cette grave crise humanitaire.
Continuiamo a pregare per la pace
Continuons à prier pour la paix au Moyen-Orient,
in Ucraina,
en Ukraine
nel mondo intero.
Et dans le monde entier. Aujourd'hui, cet après-midi, dans la basilique de Saint-Paul hors les murs, sera proclamé bienheureux le prêtre Beat Choi, jeune martyr congolais. Il a été tué à 26 ans en tant que chrétien parce qu'il s'opposait à l'injustice, défendant les petits et les pauvres. Son témoignage puisse donner courage et espérance aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique.
Buona domenica a tutti.
Bon dimanche à tous.
E a voi giovani, dico,
et à vous tous jeunes, je vous attends dans un mois et demi au jubilé des jeunes. Que la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercède pour nous.
E preghiamo insieme. Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Buona domenica a tutti.
Bon dimanche à tous.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Vous l'avez remarqué, nous sommes tous des machines à culpabiliser. Nous avons un sens de la justice très poussé, trop parfois. Quand il nous arrive un pépin, nous pensons facilement qu'il s'agit d'une punition divine pour une faute connue ou une faute cachée. Il n'en est rien. Le père Jacques Leuve est allé puiser dans un conte des frères Grimm une petite histoire pour nous sortir de cette logique, de cette réflexion. C'est l'histoire d'un petit tailleur rusé qui arrive à entrer au paradis, je ne sais par quel stratagème, et il y arrive, sans le vouloir, le jour où toute la cour céleste est partie en voyage. Donc il inspecte le paradis. Il monte sur le trône de Dieu grâce à l'escabeau, sans doute celui dont il est question dans le psaume 110. Vous savez, « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis l'escabeau de mes pieds. » Et puis voilà que du haut du paradis, on voit tout. Donc il se penche comme sur un balcon pour mieux voir la terre. Et juste à ce moment-là, il voit sa voisine en train de commettre un vol de je ne sais quoi. Son sang ne fait qu'un tour et il cherche comment la punir. Alors il va chercher l'escabeau et le lance par-dessus bord. Juste à ce moment-là, rentre la cour céleste. Alors, il se cache lui-même derrière le trône, par peur d'être pris en flagrant délit. On ne trouve pas l'escabeau du bon Dieu. Alors les anges le cherchent de partout et finissent par trouver le petit tailleur qui se cache tout timide derrière le trône. Il demande « qu'est-ce qu'il fait là ?» et le tailleur explique. Et les anges lui disent « mais dis donc, toi-même, est-ce que tu n'as pas compté souvent beaucoup plus d'étoffes de tissu que tu n'en avais utilisé ?» Et puis le bon Dieu à ce moment-là lui dit « et si je devais agir comme tu l'as fait chaque fois que les hommes font une bêtise, eh bien le mobilier du ciel ne suffirait pas. » Voilà. Alors que fait Dieu ? Eh bien la réponse nous est donnée dès le début de la Bible, vous savez, dans l'épisode du buisson ardent. Il nous dit qu'il voit la misère de son peuple et qu'il descend pour le délivrer. Cela est très bien dit dans une histoire que vous connaissez déjà et qui est sous différentes versions. Là, je l'ai trouvée dans celle-ci, je vous la livre telle qu'elle. Il s'agit de Romoletto. Romoletto vit sur le bord du Tibre, le fleuve qui traverse Rome. Et voilà que des orages, depuis quelques jours, font monter dangereusement le lit du Tibre. Et ça devient de plus en plus dangereux. Il y a une eau jaunâtre et menaçante qui devient de plus en plus grosse. Et Romoletto est très fervent, et il est très attaché au Seigneur. Et il se met en prière et il entend le Seigneur lui dire clairement « Romoletto, aie confiance, je te sauverai. » Bien. Il est très très confiant, très heureux d'avoir reçu cette motion intérieure. Et quand les pompiers viennent le chercher en zodiaque, vous savez, ces petits canaux pneumatiques à moteur, eh bien, il oppose une candeur formidable. « Moi, j'ai une assurance supérieure, ne vous inquiétez pas pour moi. » Ça, c'était 11h. Puis à 15h de l'après-midi, c'est la protection civile qui, cette fois-ci, lui envoie un zodiaque pour venir le délivrer. Et il leur répond depuis l'étage. Il a dû monter à l'étage pour échapper aux eaux. Mais il répond avec la même candeur, le même enthousiasme. « Le Seigneur me sauvera, il me l'a promis. » Alors, la protection civile s'en va. La troisième fois, ce sera la Croix-Rouge qui viendra avec son canot pneumatique, son zodiaque. Mais il refusera, alors qu'il est déjà agrippé à la cheminée extérieure, bien sûr, comme un lierre à l'arbre. Et puis, une fois que la Croix-Rouge est partie, eh bien, ce qu'ils avaient redouté arrive, c'est qu'une lame de boue emporte Romoletto. Il arrive au ciel, rouge de colère. Le Seigneur le calme et lui dit, « Dis donc, Romoletto, je t'ai tout de même envoyé 3 zodiaques. » Alors, quand nous sommes dans l'épreuve, eh bien, il faut nous poser 2 questions. Premièrement, quels sont les zodiaques que le Seigneur m'envoie ? Souvent, c'est dans la simplicité, l'humilité, mais en les repérant, l'espérance, le niveau de l'espérance monte en nous. Deuxièmement, il faut nous demander aussi quels appels il me lance. Et notamment, est-ce que moi-même, je ne peux pas devenir zodiaque pour les autres ? Dans ma paroisse, je connais plusieurs personnes qui ont perdu un enfant dans un accident de voiture et qui ont donné sens à cette douleur extrême en créant une association contre la violence routière. Et alors que ce sont des personnes très simples, elles sont capables d'aller parler dans les lycées, dans les collèges, de la prudence à avoir sur la route. Et cela a donné sens, elles ont répondu à l'appel. au fond, un peu comme le Seigneur qui lui-même est très inventif et très créatif, un prêtre qui vit dans un pays arabe m'a dit avec humour un jour, le Seigneur ne pouvait pas mettre dans ces pays son grand signe d'amour, c'est-à-dire la croix, puisque les musulmans la refusent, eh bien, il l'a caché sur le dos des ânes. Soyons aussi créatifs que lui.
Toi, je ne crains rien. Quand je fais appel à toi, ta présence relève ma foi. Jésus, tu es mon soutien. Que puis-je dire, mais que puis-je faire à part t'adorer? Je ne peux que m'incliner devant tant de bonté. Et quand tu parles à mon cœur, je laisse jaillir mes pleurs, captivé par ta douceur et tes mots d'amour. Tu veux agir dans ma changer mon cœur dès aujourd'hui, je te laisse le faire. Chaque jour tu me bénis, bien plus que je ne l'imagine, bien plus que je ne l'espère. Que puis-je dire, mais que puis-je faire à part t'adorer? Je ne peux que m'incliner devant tant de bonté. Et quand tu parles à mon cœur, je laisse jaillir mes pleurs, captivé par ta douceur et tes mots d'amour et tes mots
vous écoutez KTO Radio.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver avec la question de Marie-Claire. Pourquoi dit-on que l'Église est l'épouse du Christ ? L'Église est dite épouse du Christ de manière analogique. C'est une image qui est utilisée pour signifier l'amour indissoluble, l'alliance inaltérable de Dieu avec l'humanité. C'est une image que nous retrouvions déjà dans l'Ancien Testament, de Dieu qui s'unit à Israël, son épouse, et que nous retrouvons évidemment dans le Nouveau Testament avec le Christ qui accomplit l'alliance parfaite, l'alliance éternelle de ce don qu'il fait de lui-même par amour eh bien, à toute l'humanité. Oui, l'Église est l'épouse du Christ, car elle se tourne vers l'époux et l'époux se tourne vers elle pour s'unir, communier dans un amour éternel. Cette alliance que Dieu fait avec nous montre à quel point le Seigneur tient à cette fidélité, tient à nous rendre heureux. J'aime, lorsque je célèbre les mariages, ce moment où les deux époux échangent les consentements. Je te choisis pour époux, je te choisis comme épouse. Oui, le Seigneur fait choix de nous, nous faisons choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur d'ailleurs, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a ce choix premier de l'amour de Dieu qui s'accomplit en chacun de nous personnellement, mais également ici de manière ecclésiale. C'est tous ensemble, unis dans une unité d'amour, que le Seigneur nous prend comme épouse. Il y a cette belle citation de Paul qui dit que le Seigneur a tant aimé l'épouse qu'il l'a voulu sainte et immaculée, sans rides, ni taches, ni défauts. Et que pour s'acquérir cette épouse, pour la séduire dans le beau sens du terme, eh bien, il donne tout ce qu'il est. Il se donne lui-même. Alors cette image est pour nous une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Nous sommes aimés de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité de manière indissoluble. Cette unité, nous la recevons de Dieu et nous nous en réjouissons. Nous formons avec lui, nous sommes appelés à former avec lui une seule et même réalité dans la communion. Merci beaucoup Marie-Claire pour cette question. Vous pouvez vous aussi envoyer vos questions par email à cette adresse pourquoipadré@kteotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et vous pouvez également retrouver toutes nos vidéos sur kteotv.com. Je vous dis à très bientôt.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour continuer notre voyage au cœur des expressions françaises. Et aujourd'hui, comme ça, de prime abord, ça semble assez clair. Baisser les bras, facile. On visualise bien quelqu'un comme ça, les épaules basses, les bras ballants, le type qui renonce, qui n'a pas envie de lutter. Alors, oui, mais en même temps, non. Parce que cette expression a en fait plusieurs origines complémentaires. On va commencer avec l'explication laïque, si je puis dire. C'est celle du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, qui fait référence à la boxe. Et là aussi, on a bien l'image du boxeur qui combat avec une garde comme ça, assez haute, au niveau des pommettes, et qui doit garder cette position le plus fermement possible, évidemment pour se protéger des coups de l'adversaire. Mais forcément, après plusieurs rounds, la fatigue se fait sentir et le boxeur n'a plus la force de tenir sa garde assez haute pour parer les attaques. Il baisse donc les bras petit à petit, avec le risque de se prendre un KO. Et c'est également une référence à ce qu'on appelle dans le jargon le down. Lorsque le boxeur est à terre, il a 10 secondes pour se relever et reprendre le combat, ça vous le savez. Et s'il se relève avec les bras baissés, eh bien c'est le signe pour l'arbitre qu'il abandonne. Voilà en tout cas ce que nous dit le dictionnaire d'Alain Rey. Mais si on fait un grand bond en arrière dans le temps, on trouve un éclairage en rapport avec l'une des formes possibles de l'ordalie. Comprenez, le jugement de Dieu. En fait, beaucoup de civilisations traditionnelles utilisaient des épreuves physiques pour décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Si Dieu ou les dieux lui étaient favorables, il le faisait triompher et il était déclaré innocent. C'est ça l'ordalie. Concrètement, au Xe siècle par exemple, les seigneurs francs étaient chargés de la justice sur leur terre. Mais quand ils ne savaient pas trancher un litige ou parce qu'ils étaient encore trop pétris de pensées un peu magiques, ils utilisaient parfois une de ces épreuves pour départager deux plaignants. On les attachait à un poteau et ils devaient tenir les bras bien à l'horizontale sans rien pour les soutenir. Après plusieurs minutes, voire plusieurs heures, celui qui baissait les bras en premier, qui abandonnait en quelque sorte, était déclaré coupable parce qu'on estimait que c'était Dieu lui-même qui en avait décidé ainsi. C'est d'ailleurs peut-être ce type de supplice qui a inspiré quelques épreuves de Koh-Lanta ou de Pékin Express. Ça, on leur demandera à l'occasion. Quoi qu'il en soit, on retrouve des épreuves comme celle-là et d'autres beaucoup plus cruelles, avec fer rouge et eau glacée, dans de nombreux films sur le Moyen-Âge et en particulier sur l'Inquisition. Mais en vérité, l'Église a toujours condamné ces pratiques, comme le rappelle le Concile du Latran de 1215, puisque le commandement est clair. On ne doit pas tester la bonté de Dieu. C'est d'ailleurs sous la pression de l'Église que ces épreuves furent interdites en France par Saint Louis en 1258. La troisième et dernière origine de cette expression, c'est la Bible. Revenons au moment de l'Exode. Dès sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël fait une halte dans la ville de Réphidim, la dernière étape avant le désert du Sinaï. Et là, sans raison apparente, un chef de tribu du nom d'Amalek les attaque. Moïse ordonne alors à Josué de choisir des combattants pour se défendre pendant qu'ils se postent sur une colline qui surplombe le champ de bataille. Moïse lève alors les bras vers l'Éternel et tant qu'il garde les bras levés, c'est le peuple d'Israël qui a le dessus. Et quand il baisse les bras, c'est Amalek qui prend l'ascendant. Vous l'avez compris, Moïse doit donc garder les bras bien haut vers le ciel pour s'assurer la victoire. Mais le pauvre, il commence à fatiguer. Du coup, ses compagnons Aaron et Hur se précipitent vers lui, se mettent de part et d'autre pour lui soutenir les bras jusqu'au soleil couchant et le triomphe final du peuple d'Israël sur Amalek. Voilà du coup comment baisser les bras est devenu également une expression liée à la défaite, puisque lorsque Moïse baissait les siens, il laissait échapper la victoire. Alors, vous voyez que les choses sont jamais aussi simples qu'on le croit. Vous voyez maintenant comment ces trois origines de la Bible à la boxe ont forgé l'expression qu'on emploie tous aujourd'hui. Voilà, c'est fini. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et merci encore pour votre fidélité. Ciao.
KTO Radio. Méditation présente La Minute pour Dieu.
Je me pose. Je respire profondément plusieurs fois. Seigneur, me voici. Psaume 62. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Merci Seigneur. Je t'aime.
Téléchargez Méditatio, la première application de méditation chrétienne en français.
Un mois d'accès gratuit avec le code KTO.
Théo Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.
Bonjour à tous les éditeurs de Radio Catéo et bienvenue donc dans cette nouvelle rencontre littéraire, conversation littéraire du week-end. Les hasards des publications faisant bien les choses, on a encore pour cette dernière émission de la saison un écrivain voyageur, pas que, mais quand même, qui est François-Henri Désérable. Bonjour François-Henri.
Bonjour Jean-Claude Perrier.
Merci d'être avec nous pour nous parler, entre autres, de Chagrin d'un chant inachevé, fort joli titre que vous nous expliquerez tout à l'heure, qui est votre tout nouvel ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard. Mais on va évidemment commencer par parler un peu de vous et de votre parcours. Parcours qui est relativement récent, puisque j'étais en train de vérifier, là, votre premier livre, « Tu montreras ma tête au peuple », qui était un recueil de nouvelles, est paru chez Gallimard en 2013.
Ouais, ça fait quand même 12 ans.
Ça fait quand même 12 ans.
C'est pas rien, 6 livres.
Alors, on vous a connu donc à cette époque-là, joueur de hockey professionnel à Montpellier, vrai ou faux?
Tout à fait vrai. À l'époque, je jouais à Montpellier. Je me souviens d'ailleurs que à un moment, on joue un match à Mulhouse et les supporters mulhousiens reprennent le titre de mon livre. Ils se mettent tous à chanter « On montrera ta tête au peuple
». Ils vous avaient lu ?
Alors, je suis pas sûr qu'ils m'aient lu. Et ce jour-là, on avait pris, pardonnez-moi l'expression, une véritable branlée. Je crois qu'on avait perdu 8-1.
D'accord.
Et les supporters mulhousiens se moquaient un peu de moi à chaque fois que je montais sur la glace et chantais ça.
c'est assez joli. Comment vous étiez devenu hockeyeur professionnel à Montpellier?
D'où
vous n'êtes pas originaire?
Non, je suis originaire d'Amiens et je suis devenu hockeyeur par tropisme familial, puisque dès que j'ai su marcher, j'ai eu envie de patiner. Mon père lui-même avait été joueur et entraîneur de hockey, donc il me traînait un peu dans les patinoires, en l'occurrence à la patinoire d'Amiens, et moi, tout ce dont je rêvais, c'était de faire du hockey. Et comme Baudelaire le disait de la peinture, j'aurais pu dire du hockey sur glace, que c'était ma grande, mon unique, ma primitive passion. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout naturellement annoncé à mes parents que je souhaitais embrasser une carrière de joueur de hockey professionnel. Mon père en était ravi, hein, très heureux de voir son fils suivre ses traces. Ma mère, elle, beaucoup moins. Elle tenait absolument à ce que je fasse des études. La fac la plus proche de la patinoire à Amiens était la fac de droit. Alors je suis rentré en fac de droit simplement par proximité géographique. Voilà, vous voyez à quoi tiennent les vocations. Et puis, assez rapidement, je me suis pas mal emmerdé quand même sur les bancs de la fac de droit. Et c'est là que je me suis mis à lire. J'ai poussé la porte d'une bibliothèque, j'ai découvert la littérature. Mais j'ai été joueur de hockey pro pendant une dizaine d'années à Amiens, à Lyon, à Montpellier.
Oui, parce que vous racontez que vous avez... on sait très bien que les écrivains, en général, sont de gros lecteurs. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas.
Les grands écrivains... Il y a deux choses que partagent... Il y a une chose que partagent les grands écrivains, c'est que ce sont tous des grands lecteurs. Je ne connais pas un seul grand écrivain qui ne soit pas gorgé de lecture. Et puis, il y a une chose que partagent les grands et les mauvais écrivains, c'est la certitude de leur indéfectible valeur.
Alors, en tout cas, vous concernant, vous dites que vous avez commencé à lire très tard, en fait, que vous étiez relativement rétif à la lecture quand vous étiez au lycée jusqu'à une certaine époque.
Oui, c'est-à-dire que
ça s'est déclenché.
C'était vraiment, la littérature était une terra incognita pendant mon enfance et mon adolescence. J'avais très peu lu, je me contentais des prescriptions scolaires et encore, je ne les lisais pas toutes. Alors, il y a quelques livres quand même qui m'avaient marqué. Je me souviens du Crime de l'Orient Express, d'Agatha Christie, je me souviens de ma lecture du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires, à l'âge de 14 ans. Je me souviens évidemment de La Promesse de l'Aube de Romain Gary,
qui
était très, très important pour moi. Mais tout de même, assez peu de livres, et je me suis mis à lire du jour au lendemain, à l'âge de 18 ans, à emplir le cours de mes journées en lisant et en écrivant très rapidement, parce que je me suis mis à écrire très vite. Mais rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je vais même vous dire que si l'adolescent que j'étais considérait ma vie aujourd'hui, il serait absolument mortifié de voir.
C'était pas ce qui était prévu.
Non, c'était pas le projet.
C'était le sportif de haut niveau est devenu un écrivain, pas un écrivain de cabinet, loin de là, mais quand même un écrivain. Et un écrivain professionnel, donc c'est assez drôle. Comment vous avez commencé d'écrire ? Parce que lire, c'est une chose, mais écrire, c'en est une autre. Et puis, on le disait tout à l'heure, vous faites vos débuts d'abord avec un recueil de nouvelles, ce qui est assez original, parce qu'en général, les éditeurs n'en veulent pas, sous le prétexte que ça se vend encore moins que le reste, si j'ose dire. Donc déjà, vous commencez par un recueil de nouvelles, et puis avec un titre choc, tu montreras ma tête au peuple, qui est donc la formule de Danton, c'est ça ?
Alors attendez, parce qu'avant tu montreras ma tête au peuple, il y a quand même eu un autre manuscrit entre 18 et 22 ans, un truc que j'ai mis 4 ans à écrire, que j'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs.
Ah, on la connaissait pas celle-là. Narrez-la nous.
C'était une histoire d'amour sur les bancs d'une fac de droit, entre deux jeunes gens qui venaient de milieux sociaux très différents.
Il y avait un joueur de hockey, non ?
Non, il n'y a pas de joueur de hockey. Mais c'était complètement raté. Le titre était très beau. Il était emprunté à un vers de Verlaine et le titre était « Riche de mes seuls yeux tranquilles ». Et le titre était beau, mais tout le reste du roman était raté.
Pas très commercial, diraient les représentants.
Ça, je sais pas. De toute façon, je pense que si on fait de la littérature dans une visée commerciale, on se trompe. Mais je l'ai envoyé une vingtaine d'éditeurs, en retour de quoi j'ai reçu une vingtaine de lettres de refus.
Ah, quand même, ils ont répondu.
Oui, ils ont répondu et ils ont eu raison de rejeter ce manuscrit parce que il m'est arrivé d'en relire quelques passages depuis et c'était absolument atroce. Mais ça m'a aidé à faire mes gammes en quelque sorte.
Il faut bien commencer, oui.
Et après, j'ai commencé à écrire Tu montreras ma tête au peuple. D'abord, une nouvelle sur la mort de Danton. Tu montreras ma tête au peuple, c'est la phrase que prononce Danton devant l'échafaud. Voilà. Il arrive devant l'échafaud qui était dressé place de la Révolution, donc place de la Concorde aujourd'hui, et il dit au bourreau Samson, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Et alors, ensuite, il est guillotiné, et le bourreau brandit la tête par les cheveux et la montre à la foule massée devant la guillotine. Et j'ai d'abord imaginé les derniers instants de Danton, ce qu'il pouvait penser sur la charrette qui le menait de la conciergerie à l'échafaud. Et puis, après avoir terminé cette nouvelle, je me suis dit que je tenais peut-être là un truc et j'ai décidé de tirer un peu le fil et de brosser les derniers instants d'hommes et de femmes, connus ou non, qui avaient connu les honneurs de l'acier, comme on disait, le léger souffle d'air frais. Vous savez que le docteur Guillotin, lorsqu'il a présenté son projet de guillotine devant l'Assemblée nationale, il a dit « c'est une grande avancée. Les condamnés à mort, pour la première fois, ne souffrent pas. C'est à peine s'ils ressentent sur la nuque un léger souffle d'air frais. »
C'est pourquoi il est passé pour un bienfaiteur de l'humanité.
Exactement.
Et non pas pour un bourreau tortionnaire.
Et donc, je raconte dans ce livre, les derniers instants de Marie-Antoinette, de Charlotte Corday, de Robespierre, d'un certain nombre de figures de la Révolution française guillotinées pendant ce qu'on appelait la Terreur.
Alors si j'ose dire, ça tranchait sur le reste de la production à l'époque, c'est pourquoi vous avez eu tout de suite un accueil remarqué.
Oui, il y avait ça, et puis le fait que j'étais joueur de hockey sur glace pro à l'époque, c'était quelque chose d'assez inhabituel.
Oui, dans le milieu littéraire, on a plutôt l'habitude des journalistes, des profs, des avocats, etc.
Et donc il y a eu une certaine curiosité à mon égard, mais qui n'était pas seulement liée au livre. Je dirais que la curiosité liée au livre, elle est venue un peu plus tard avec ce qui a été mon premier roman, Évariste, sur le mathématicien Évariste Galois.
Oui, et puis ce grand jeune homme sportif, blond aux yeux bleus, ce viking qui déboule sur la scène littéraire. À quel âge vous aviez ?
J'avais 25 ans.
Oui, en plus. Donc, voilà, vous aviez plein de... Les bonnes fées s'étaient penchées sur votre berceau.
Écoutez,
ça a bien démarré, en fait.
Je rougis de vos compliments.
Sauf que j'avais lu le premier livre.
Ouais, mais d'ailleurs, je crois me souvenir que vous étiez peut-être le premier à avoir écrit sur...
Ah, forcément, le livre hebdo, c'est le deal.
Sur l'un de mes livres. Et je me souviens d'ailleurs d'une phrase que vous aviez écrite. C'était « On ne sait pas grand-chose de François-Henri des Érables, si ce n'est qu'il a dû faire de longues études d'histoire. » Or, je m'étais arrêté en terminale.
Ah oui, comme quoi on peut se tromper. Je me souviens aussi que je m'étais amusé à vous imaginer aristocrate réglant des comptes dès érable.
La Révolution. Alors pas du tout, parce que moi je trouve que la Révolution française est une des meilleures choses qui soit arrivée à la France. Mais je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, je suis dans un café et je croise François Ruffin. Et je vais le voir, donc l'homme politique. Et lui-même est d'Amiens, comme moi. Et je vais le voir et je lui dis, écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et en plus, on était dans le même lycée. Il me dit, ah, vous étiez à la Pro, à la lycée de la Providence à Amiens. Et je dis, oui, oui. Et il me dit, c'est quoi votre nom? Et je dis, Désérable. Il me dit, ah, comme l'écrivain. Je dis, oui. Il me dit, je suis content. Et il me dit, je suis content de mettre un visage sur vos livres. Et je dis, ah, vous m'avez lu? Il me dit, oui, oui, j'ai lu, tu montreras ma tête au peuple. Et après, il ajoute, je dois vous avouer, j'étais pas fan. J'ai trouvé que c'était désarmant de sincérité, mais il s'en est expliqué après. Il m'a dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé l'écriture, mais j'ai trouvé que c'était un livre anti-révolutionnaire. Et moi, j'étais un peu mortifié parce qu'en réalité, c'était pas du tout mon intention lorsque j'ai publié ce livre.
Non, c'était ni anti ni pro. C'était...
J'examinais la révolution du point de vue de la terreur, du point de vue de ceux qui allaient être guillotinés. Donc forcément, c'est compliqué d'être révolutionnaire au moment où vous allez avoir votre tête séparée de votre tronc. Et Ruffin me disait, oui, mais la révolution doit se c'est un tout, ça forme un tout et on ne peut pas séparer la période de la terreur de celle des immenses espoirs qu'elle a suscité.
Bien voilà. Sûr, oui, il n'a pas tort sur le fond, mais c'est vrai que, en tout cas, ça avait été remarqué à l'époque. Le problème aussi dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, tout est un petit peu... tout est un peu jugé à l'aune de l'idéologie, de la politique, on se jette des anathèmes. Donc effectivement, on disait, voilà, ne montrer que la terreur de la Révolution, forcément, c'est un écrivain réactionnaire.
Oui, ce qui, je crois, est pas vraiment le cas. D'ailleurs, j'ai fait mes preuves en matière de progressisme.
Il y a un couplet mélanchoniste dans votre
je me moque un peu aussi. Mais
oui, exactement. Oui, c'est assez réussi. Et donc... c'est dès le début que vous avez pris le parti courageux de ne vivre que de votre plume, c'est-à-dire de ne pas exercer de métier alimentaire avec tous les guillemets.
Pendant encore 3-4 ans, je gagnais ma vie en jouant au hockey. Et puis quand j'ai arrêté le hockey, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la littérature. Et je crois qu'un des éléments qui m'a conforté dans cette décision, c'est la lecture du journal de Delacroix, où il dit que la pratique d'un art demande l'homme tout entier. Et je savais très bien que ça pouvait être compliqué de vivre de sa plume, de ne se consacrer qu'à la littérature, mais j'ai décidé de faire ce pari-là en gardant à l'esprit que la littérature est un domaine qui n'est pas du tout méritocratique, contrairement au sport professionnel, et qu'on peut être un très grand écrivain et crever la dalle.
Oh, il y a des exemples, oui.
Il y a moult exemples, et à contrario, on peut être un écrivain absolument effroyable et avoir l'honneur des foules, la faveur des libraires.
Il y a d'autres exemples aussi qu'on ne citera pas, voilà. Évidemment. Non, en revanche, il y a un exemple de réussite littéraire assez stupéfiante sur le même mode, c'est David Funkinos, qui était attaché de presse dans l'édition quand il a commencé, comme vous, dans sa vingtaine, et qui a dit non, c'est pas pour moi, j'arrête. Il se prend une chambre de bonne et il se met à écrire. C'était un pari fou.
Oui,
alors, ça a magnifiquement fonctionné.
J'ai plein d'autres exemples.
Ouais, mais à date récente, pour moi, c'est le plus frappant.
Moi, je vais vous en citer d'autres. Miguel Bonnefoy, qui est l'un de mes très bons amis, a fait ce pari-là. Et Mohamed Mougarsar a fait exactement ce pari-là. Et pendant des années, ce sont des types qui ont vécu avec pas grand-chose avant d'avoir le succès. Ils ont tiré le diable par la queue. Et puis, maintenant, leurs livres se vendent très bien. Et c'est heureux parce que ce sont de très, très, très grands écrivains. C'est réjouissant de voir qu'ils ont les faveurs du public.
La Providence a pourvu à tout. Alors, vous, ça a été un succès, le recueil des nouvelles ou...
Qu'est-ce qu'on entend par succès
Je ne sais pas, vous avez gagné des sous.
J'ai gagné des sous, assez en tout cas, pour me permettre de tenir plus d'un an et demi et écrire mon livre suivant. Mais c'est surtout avec Évariste que ça a vraiment décollé, qui a été mon deuxième livre, mais mon premier roman, l'histoire de ce mathématicien de génie, mort en duel à l'âge de 20 ans, qui a une vie très romanesque, qui a découvert les mathématiques à 14 ans, qui les révolutionne à 16 ou à 17, est un type qui commence à frayer dans les milieux républicains juste après les Trois Glorieuses qui ont vu la chute de Charles X, qui fait de la prison et qui meurt en duel
bêtement
pour une femme, enfin pas si bêtement que ça, parce que c'était pour une femme qu'il aimait. et qui meurt surtout dans les bras de son frère 24 heures après avoir pris une balle de pistolet dans le ventre. Et il lui dit cette phrase que je trouve absolument sublime, là encore, il dit à son petit frère, ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. Et voilà, j'ai fait un roman de cette vie menée tambour battant, le roman qui s'appelle Évariste. Et ça a été vraiment le premier succès vraiment qui m'a permis d'envisager la possibilité de m'en consacrer entièrement à la littérature.
Alors c'est beau comme l'antique, mais c'était pas très gai comme inspiration. Tous ces gens qui meurent, soit guillotinés, soit en duel à 20 ans, etc.
Ouais, écoutez, il y a deux sujets en littérature, c'est l'amour et la mort, et tout le reste, c'est du blabla.
Non, on rajoute la vie en général. La vie, l'amour, la mort.
Ça en fait partie, ça en fait partie. Je crois que ce sont les deux sujets qui prévalent et autour de quoi on ne cesse de tourner.
Et puis le livre suivant, puisqu'on est dans le parcours là, et ça a été un livre très marquant aussi. C'est un certain Monsieur Piquelny, donc sur Romain Gary dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais, ben ça c'est une histoire que Romain Gary raconte au chapitre 5 de La Promesse de l'Aube, où il dit que sa mère nourrissait de très grandes ambitions pour lui et qu'elle disait à tout le monde, mon fils sera ambassadeur de France, sera Victor Hugo, sera un grand écrivain. Et Gary raconte que tout le monde dans l'immeuble où il vivait avec sa mère à Vilnius, qui à l'époque s'appelait Vilno, se moquait de ses prétentions, de ses prédictions maternelles, sauf un petit homme, un voisin qui ressemblait à une souris triste, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac, et qui un jour a coincé le petit Romain dans la cage d'escalier de l'immeuble, et lui a dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Je pense que tu vas devenir un grand écrivain. Alors, promets-moi une chose. » Quand tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et Gary nous dit que ce Piekielny est sans doute mort pendant la guerre, assassiné par les nazis, ce qui a été le sort de la plupart des juifs de Vilnius, mais que lui s'est toujours acquitté de sa promesse, et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, passant en revue son escadrille pendant la guerre, à la télévision américaine, face à des millions de téléspectateurs, à la tribune de l'ONU, face aux hauts dignitaires et aux bâtisseurs pour Milan, eh bien il n'a jamais manqué de mentionner l'existence de ce petit homme et de dire à ses interlocuteurs, parfois désarçonnés, au numéro 16 de la rue Grande Paulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Moi, j'ai mené une enquête pour savoir qui était ce Piekielny, et à travers lui, je raconte Romain Gary.
On va enchaîner sur Romain Gary. On va marquer une première pause. Alors, vous avez choisi, comme c'est la tradition dans cette émission, deux morceaux de musique. Le premier, qu'est-ce que c'est ?
C'est Baraghe, d'un chanteur iranien qui s'appelle Shervin Hajipour et qui a été composé juste après la mort, l'assassinat, devrais-je dire, de Jina Mahsa Amini, cette jeune fille d'origine kurde, arrêtée par la police des mœurs en Iran.
Parce qu'elle n'était pas assez bien voilée.
Voilà, tabassée dans le fourgon de police et dont la mort a été l'élément déclencheur d'une vague de contestation très forte en République islamique d'Iran. Sauvagement réprimée. Et moi, j'ai traversé l'Iran à ce moment-là.
On va en parler. On écoute. Redites-nous le titre et l'interprète, s'il vous plaît.
Baraghe, Shervin Hajipour.
Baraghe, Shervin Hajipour. Vous nous expliquerez après de quoi il retourne.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، خواب و بیخوابی برای مرد، میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن، زندگی آزادی
littéraire avec François-Henri Désérable qui va nous parler de Chagrin d'un chant inachevé qui vient de paraître chez Gallimard. On était en Iran là avec vous, donc cette chanson que vous nous présentiez tout à l'heure, chanson dédiée à cette jeune Iranienne victime de sa liberté de penser, j'allais dire, de son...
De se vêtir.
De se vêtir comme elle voulait, d'être libre, tout simplement, qui a été effectivement, qui est devenue maintenant une icône d'une certaine contestation en Iran. Ouais. On est loin, évidemment, de la liberté, etc. On était à Villeneuve juste avant de passer à l'Iran. Je dirais que ce monsieur Pikelny, en dehors de son intérêt intrinsèque, ça commence à être un peu de la littérature de voyage d'une certaine façon, parce que vous allez sur place, vous menez l'enquête sur fictionné ou pas, vous nous le direz, sur ce monsieur Pikelny, mais l'écrivain se fait voyageur cette fois-ci.
Oui, alors j'allais pas très loin, j'allais sur les lieux de Romain Gary, donc je suis allé pas mal à Nice, et je suis allé plusieurs fois à Vilnius, notamment pour fouiller dans les archives nationales, donc on peut pas dire que ce soit de
rue
longs
du Bac
périples.
Aussi. Rue du Bac,
voilà,
Nice,
donc
quand même.
Je suis allé à 150 mètres de chez mon éditeur, parce
voilà.
Gary a vécu longtemps au 108 de la rue du Bac, où il est mort. D'ailleurs, d'où il s'est donné la mort le 2 décembre 1980. Et oui, donc il y avait un peu de mouvement, de déplacement géographique dans un certain monsieur Pikelny. Ouais.
Ça commençait. Et donc, votre premier vrai livre, entre guillemets, de littérature de voyage, c'est L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Donc, qui est sorti...
2023, en mai 2023.
Voilà, qui est le résultat d'un périple assez rocambolesque.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais lu un livre qui s'appelle L'usage du monde
de Nicolas Bouvier, des écrivains voyageurs.
Ouais, j'enjoins vos auditeurs à se procurer, et à lire, à dévorer et à jouir de la lecture de L'usage du monde de Nicolas Bouvier.
Depuis le temps qu'on reçoit des écrivains voyageurs qui disent tous la même chose,
voilà,
Emmanuel Ruben,
on enfonce le clou.
Vous avez raison.
On continue à faire de la propagande, on fait du prosélytisme sur Radio Cato pour ce prophète du récit de voyage qu'est Nicolas Bouvier. Et moi, je suis un de ses disciples les plus fervents. Et j'avais lu L'usage du monde, et puis je m'étais promis de refaire un jour une partie du voyage, parce que ce voyage de Bouvier a eu lieu en 1953, 1954, avec son ami Thierry Vernet, où ils partent de Genève avec une petite voiture, une Fiat Topolino, à travers les Balkans, la Turquie, l'Iran, une petite boucle au Pakistan, et ils terminent leur voyage un an et demi plus tard en Afghanistan, à la passe de Khyber.
Alors, ce qui fait rêver déjà, c'est qu'on pouvait à l'époque faire ça, ce qui est évidemment...
Alors on peut toujours, mais à ses risques et périls.
Oui, franchement, oui.
Et moi, quand j'arrive en Iran, c'est un moment très particulier, après la mort de Mahsa Amini, pendant ces manifestations très durement réprimé, quand j'atterris à Téhéran.
C'était quand ça ?
C'était en novembre 2022. Et d'ailleurs, au moment où je m'apprête à prendre l'avion, je reçois un appel d'un numéro inconnu, je décroche. C'était la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères français, qui me dit: Monsieur Désérable, vous nous avez fait part d'un désir de voyage en Iran. Je vous le dis tout net, renoncez-y, parce que vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire qui est très élevé. S'ils vous arrêtent, ils vous font passer pour un espion à la solde du Mossad ou de la DGSE. On ne pourra rien faire pour vous, on ne pourra pas vous offrir la protection consulaire, et vous allez récroupir des mois, si ce n'est des années, dans les geôles de la République islamique. Et en même temps, j'entends un haut-parleur qui grésille et qui dit en anglais, mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol pour Téhéran. Veuillez attacher vos ceintures et mettre vos téléphones portables en mode avion. Donc, il était de toute façon trop tard, mais je connaissais les risques encourus.
Oui, j'imagine. Oui.
Et il me semblait nécessaire de les prendre parce que j'avais eu la chance d'obtenir un visa touristique n'étant pas journaliste. Or, aucun journaliste ne pouvait mettre les pieds en Iran, aucun journaliste étranger. Et les journalistes iraniens étaient eux-mêmes emprisonnés s'ils parlaient de ce qu'il s'y passait. Et donc, j'ai décidé de traverser ce pays sur les traces de Nicolas Bouvier, donc en refaisant une partie de l'itinéraire de l'usage du monde, de Tabriz au Baloutchistan, en passant par Téhéran, Qom, Shiraz, Ispahan, Kerman, le désert de Lout. Donc un voyage assez extraordinaire jusqu'à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Et le tout à ce moment très très particulier pour ce pays.
Quel était le projet de base ? C'était vraiment Bouvier qui était... Oui. Parce que vous aimez bien ça, on va y revenir tout à l'heure.
Le projet de base, c'était vraiment de... J'avais pas prévu d'ailleurs d'en faire un livre, c'était vraiment une errance sur les traces de Nicolas Bouvier. Peut-être que j'allais peut-être en tirer un petit truc.
Oh, quand même.
Mais non, je vous assure que j'avais pas prévu d'en tirer un récit de voyage, contrairement à mon voyage latino-américain dont on parlera ensuite. Mais je ne savais pas. Et en fait, ce voyage qui n'a duré que 6 semaines parce qu'il a été interrompu par les gardiens de la Révolution qui m'ont arrêté à Saqqez, au Kurdistan iranien, qui était la ville de Jina Mahsa Amini, et qui m'ont signifié la fin du voyage après une garde à vue en me disant que j'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan et 48 heures pour quitter l'Iran.
Ils ont été gentils parce que vous auriez pu, comme a dit Vilquet d'Orsay, croupir en tôle.
Ouais, ouais, ouais.
On a des ressortissants. Oui, il y a encore deux scientifiques, ouais. Si mes souvenirs sont bons.
Bien sûr, il y a un Français aussi qui a été arrêté en même temps que moi, 2 semaines avant moi, et lui, il a passé 3 ans dans les geôles de la République islamique. Pour rien. Enfin, je veux dire, il n'était coupable de rien. Seulement, c'est une monnaie d'échange dans le cadre de la diplomatie des otages que pratique le régime de l'ayatollah Khamenei. Et ce voyage, en dépit de sa durée écourtée par les gardiens de la Révolution, était d'une richesse absolument prodigieuse. D'abord parce que le peuple iranien est un peuple magnifique, est un peuple d'une hospitalité que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. La phrase que j'ai placé en épigraphe de ce livre, c'est une phrase de Nicolas Bouvier, qui se trouve dans l'Usage du Monde, où il dit « Ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux persans en voyage n'en pourraient attendre de ma ville, qui était Genève, où pourtant tout marche bien. » Eh bien, ce sens de l'hospitalité iranien, que je croyais un peu surfait, je me suis aperçu qu'il ne l'était pas du tout. C'est un peuple d'une extrêmement raffiné, un peuple pris de poésie, un peuple qui va se recueillir en masse sur la tombe de Hafez, un poète mort il y a plus de 6 siècles et qui cherche dans les vers de ce poète des réponses à ses questions existentielles.
Des consolations.
Et une certaine forme de consolation. Et c'est un peuple, en même temps, qui doit subir un régime liberticide, patriarcal, thanatocratique, c'est-à-dire qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Un régime qui enferme, qui torture, où un certain nombre de filles se font violer par leurs gardiens en prison. Un régime où on vous condamne pour des chefs d'inculpation comme inimitiés à l'égard de Dieu ou corruption sur terre, ce qui est une façon de mettre un peu n'importe quoi. Un jeune qui avait brûlé une poubelle dans une manifestation a été condamné à mort pour corruption sur terre.
Et non pas dégradation de biens publics.
Corruption sur terre, condamné à mort, pendu à l'aube avant la prière du matin, au bout d'une grue, enterré dans un terrain vague, sans qu'on prévienne sa famille, ni du lieu, ni du moment où on allait l'enterrer, pour que son enterrement ne donne pas lieu à une nouvelle manifestation. Donc voilà la réalité de ce régime. Et donc les Iraniens sont magnifiques, vraiment. Les Iraniens sont magnifiques.
Ils parlent, quand il y a un étranger.
Oui. Alors au début, c'est toujours étonnant parce que.
C'est risqué quand même. Parce que vous auriez pu être un espion.
Exactement.
Au contraire,
donc ils cherchent à en savoir un peu davantage bien sur sûr. Vous avant de livrer le fond de leur cœur et de leur âme et de vous dire ce qu'ils pensent réellement du régime. Parce que,
ce dont on se doute par ailleurs.
Mais je n'ai jamais rencontré un peuple qui avait une telle défiance à l'égard de ses dirigeants.
Oui.